Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une grande soirée de foot sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit, l'After Live, avec l'affiche de cette quatrième journée de Ligue 1. Auxerre face à Monaco, et juste après, il y aura évidemment l'After Foot. Il est là, à mes côtés, c'est une star aux États-Unis il y a quelques instants. On parlait de New York, on parlait de Los Angeles, mais c'est aussi une star au Luxembourg, parce qu'il a été le capitaine de la sélection. Monsieur Maxime Chanot, bonsoir.
Salut Karine, salut à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien, sous la pluie parisienne, mais tout va bien.
Ouais, là, on sent le mec qui revient de Los Angeles, qui est en dépression, parce qu'il découvre le temps parisien au quotidien, c'est ça ?
Ben, c'est clair que ça change Los Angeles, mais je m'adapte petit à petit.
Tu vas voir, on s'y fait jamais. C'est ce que je peux te dire. On va tout de suite partir à la Baie des Champs, on va retrouver notre duo de commentateurs Fred Joly et Valentin Jamin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors je ne sais pas s'il pleut à la Baie des Champs, mais en tout cas Fred.
Ah si, ah si.
Ah oui. Ah ben voilà. Auxerre en tout cas doit absolument se relancer, parce qu'on le rappelle, la JR est sur deux défaites de suite et ils comptent sur leur buteur Sinayoko, unique buteur depuis le début de la saison.
Ah exactement, Sinayoko, buteur contre Lorient, buteur contre Nice, qui n'a pas empêché la JOCR de s'incliner à Nice. Il avait marqué un but exceptionnel ici face à Lorient, et puis c'était un travail collectif du côté de Nice, où il était à l'aboutissement d'un bon mouvement auxerrois. Alors quelques surprises du côté de la JOCR, puisqu'il manque des garçons comme Sierralta ou Akpa touché aux adducteurs. Sierralta, il est revenu de la sélection chilienne, alors peut-être petite forme, on a préféré du côté de Christophe Pélissier le laisser au repos. Léon, Donovan Léon est lui suspendu. Deuxième match de suspension pour Donovan Léon, qui a été expulsé à Nice. Il est remplacé par Théo de Persin. La défense quelque peu remaniée, avec donc Mensa, Siwe, Hopgard, Senaya. La récupération assurée par le duo de choc danois Ovuzu. Namazo fait sa première apparition sous les couleurs au cerveau, soit tout au moins à la Baie des Champs. Sinayoko, on pense que Sinayoko risque d'évoluer pour le début de cette rencontre sur le côté gauche, avec Mara en pointe, ce garçon qui a été prêté à la JOCR par Strasbourg devrait être aligné en pointe, mais avec Sinayoko on va sans doute permuter. Et puis sur le côté droit de l'attaque auxerroise, on retrouvera Casimir. Voilà pour le 11 de départ auxerrois.
Et Valentin, Monaco reste sur une victoire dans les arrêts de jeu face à Strasbourg, et Monaco est obligé de relancer Koen dans les buts parce que le gardien titulaire Adeski est blessé.
Touché au ligament du genou, effectivement. Hein. On a l'impression de se répéter avec Monaco, puisqu'il y a toujours des soucis de gardien. L'année dernière, c'était la concurrence Majewski, Philippe Keun. Au fil des blessures, Philippe Keun avait pas mal joué. Il est de nouveau donc aligné pour la première fois en tant que titulaire cette saison. Et ce sera le cas pendant probablement deux mois. On a changé toute la défense à Monaco, les titulaires, tous au repos, sûrement en prévision de la Ligue des Champions, enfin sur le banc. Et donc la charnière avec Salisu et Kerrer qui disputent leur premier match de la saison. À droite, Vanderson, qui n'était pas titulaire depuis le début, c'est plutôt Thésé d'habitude, il est là. Et à gauche, c'est Ouattara. Caio Henrique est également allé s'asseoir sur le banc. Première titularisation également au milieu pour Aladji Bamba, le jeune joueur de 19 ans, avec Zakaria. Donc là, c'est Lamine Camara qui souffle. Et puis devant, en revanche, on a moins fait tourner. Akliouche est là, plutôt à droite. À gauche, Minamino. Et puis en pointe, Balogun et Biret. Et un absent important en plus du gardien Radeki, c'est Golovin. On l'a appris, il est gêné musculairement. Mais on a changé quasiment la moitié de l'équipe titulaire du côté de Monaco.
Maxime, un petit mot sur ces deux compositions d'équipe. Auxerre doit faire face à des blessés. On a entendu aussi Pélissier qui avait râlé un petit peu, parce que pendant cette trêve internationale, il avait très peu de joueurs à disposition. Et puis Monaco qui veut surfer sur cette victoire arrachée dans les arrêts de jeu face à Strasbourg.
Monaco qui veut surtout surfer sur cette victoire, mais surtout qui veut préparer, je pense, le match contre le club de Bruges là, en Ligue des Champions. Ça va être intéressant de voir comment se positionnent les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu habituellement. Après Auxerre, c'est vrai que pour le coup, ça va être un peu compliqué pour eux, dans la mesure où c'est vrai qu'ils ont aussi pas mal d'absents, quelques blessés. Le fait qu'ils jouent à domicile, je pense que ça va leur donner un vrai avantage. À voir comment les remplaçants de Monaco se positionnent.
C'est parti à la Baie des Champs, 0-0 bien évidemment dans ces premières secondes entre la JOCR et l'AS Monaco. Ils ont le ballon, les Monégasques, pour commencer. Ils seront violets ce soir. Les Auxerrois jouent évidemment en blanc. Et première touche sur le côté gauche effectuée par Ouattara, rendue directement à la défense auxerroise.
À savoir comment ces Auxerrois vont se comporter avec ces changements, les absences, les nouveaux qui arrivent. Tu le disais, avec un groupe réduit, Angeur était parti en sélection internationale. Alors évidemment, pour Christophe Christophe Pélissier, c'était très très compliqué. Il a dû faire avec 4 joueurs du groupe pro, ce qui est quand même assez peu pour travailler, et certains sont revenus avec quelques petits bobos. Donc voilà, il faut faire avec les bobos, il faut faire avec l'effectif. Ce n'est pas simple pour Christophe Pélissier face à cette ogre qui est la AS Monaco.
Et la passe de Mikabir est en profondeur, il était au milieu de terrain, ça a été intercepté, c'était pour Balogun, mais l'on revient dans les pieds monégasque, et la bonne orientation d'Aladji Bamba qu'on va découvrir. Il avait fait 2 entrées en jeu déjà, le jeune monégasque de 19 ans, première titularisation. On est allé voir à droite Vanderson qui repasse par sa charnière et par Mohamed Salissou.
Le ballon sur le côté gauche, on repique dans l'axe du côté de la AS Monaco pour trouver des solutions, mais on est obligé de revenir derrière avec une équipe auxerroise qui est bien appliquée, hein. On vous le disait, on voit que Mara a été semble-t-il titularisé en pointe, Sinayoko est sur le côté droit pour l'instant en tous les cas, et donc Casimir est à droite et en soutien. Donc nous avons Namasso pour du côté de la JOC. On va voir ce que ça donne, et sans doute que les garçons vont permuter au fur et à mesure que les minutes vont passer.
On va tout de suite partir au stade Mayol à Toulon retrouver Flo Germain. Bonsoir Flo, c'est la deuxième journée de Top 14 et c'est déjà un choc, hein, entre Toulon et Castres. Toulon qui veut absolument surfer sur sa belle victoire à Montpellier, mais attention, Castres est un éternel poil à gratter.
Exactement, salut Karine, salut à tous. 3-0 d'ailleurs pour les Castrais ici au Stade Mayol, une pénalité d'entrée de jeu et du coup un avertissement peut-être pour les Toulonnais. Toulon qui s'est imposé, tu l'as dit, à Montpellier pendant que Castres a fait un faux pas à domicile, et puis deux équipes qui s'étaient rencontrées en barrage la saison passée, ça avait donné une nette victoire des Toulonnais, mais ce sont deux formations très proches, très souvent on l'avait vu en phase régulière entre guillemets, où chaque équipe avait gagné à domicile de 2 points à chaque fois. Donc voilà, match avec forcément du suspense, et match pour le moment qui est en faveur légèrement des Castres. Ils mènent 3-0, 7 minutes de jeu dans un Stade Mayol où maintenant il y a des jeux de lumière magnifiques avant la rencontre, au-delà du fameux pilou-pilou. Il y a de très belles animations lumineuses, donc c'est une nouveauté cette saison. 3-0 pour Castres.
Magnifique les donc jeux lumineux. On retourne à la Baie des Champs, on le rappelle, la JA reçoit Monaco, 3 minutes de jeu, et Valentin, on va vraiment aussi s'intéresser à la relation Balogun-Biret, parce qu'ils étaient déjà associés lors de la victoire face à Strasbourg, mais pourtant ils ne s'étaient pas énormément trouvés. Moi j'avais été un peu déçu de leur association.
Oui, c'est vrai. Dans ce 4-4-2, hein, ce sont les deux joueurs que veut utiliser Adi Hütter, Balogun et Biret. Alors en plus, on sait que Biret avait seulement passé les 6 derniers mois de la saison dernière à Monaco, et il était arrivé l'hiver dernier en provenance du Sturm Graz. Et puis Balogun, lui, a été très gêné à une épaule, il a assez peu joué. Donc effectivement, il y a des automatismes à parfaire. Brelem Bolo est parti, donc ça libère quand même un petit peu de place devant. Mais on attend effectivement que ces garçons se trouvent peut-être un petit peu mieux. D'ailleurs, Biret n'a pas marqué cette saison, il n'a pas fait de passe décisive non plus. Balogun a marqué un seul but, donc il y a beaucoup de talent, hein, devant. Ce sont deux jeunes attaquants, 24 et 22 ans, mais effectivement ce sont deux joueurs à surveiller dans l'optique de cette saison de Ligue 1, même un petit peu plus que Monaco. D'ailleurs, Biret va aller choper un ballon et tenter de lancer Balogun sur le côté droit. La passe a été interceptée et dégagée par Sioué en touche. La touche, elle sera à droite pour Monaco, assez haute sur le terrain.
Mais pour l'instant, les Monégasques ont le pied sur le ballon. Les Auxerrois sont certes bien en place, mais courent pour l'instant après cette balle que du côté des Monégasques ont fait parfaitement tourner, sans pour autant dans un premier temps en tous les cas mettre cette équipe auxerroise en grande difficulté. Mais attention à cette équipe de Monaco qui cherche la petite ouverture, la petite faille pour bouleverser et malmener cette équipe auxerroise.
5 minutes de jeu, 0-0. Zakaria a trouvé devant lui Bamba qui repasse dans le rond central avec Thilo Kerrer qui va aller appuyer sur la droite. Marnès Akliouche le long de la ligne de touche pour devant lui Vanderson, au niveau de la surface de réparation, complètement côté droit, et Akliouche encore trouvé à 35 mètres.
Oh, cette balle de l'autre côté, c'était bien vu. On décale sur le côté gauche avec peut-être le centre de Ouattara qui se remet sur son pied droit. C'est bien défendu, il s'est battu comme il le fallait sur le côté de la défense au Servoise, avec peut-être la contre-attaque et Sinayoko qui est face à deux Monégasques. C'est compliqué de l'autre côté, le contrôle de la poitrine. Ah, mais ça va être compliqué car du côté de Monaco tout le monde est revenu. La frappe, oh, c'est juste à côté, cette frappe.
C'est Oppegaard,
c'est Namazo, je crois, qui frappe.
Namazo, oui, qui avait le ballon.
Namazo, la frappe, elle n'est pas passée loin.
Elle était belle, il avait bien contrôlé ce ballon de la poitrine hein, sur le côté gauche. Il s'est réaxé, il a repiqué et la frappe du pied droit dangereuse, la première. Pour la JOCR, le Camerounais qui a fait trembler les Monégasques. Et le 6 mètres a été effectué par Philippe Keun, toujours 0-0 à la 6e minute de jeu. Et j'ai l'impression, Maxime, qu'on a quand même une animation à 5 à Auxerre derrière, puisque Josué Casimir est quasiment piston. Hein. Oppegaard à gauche, Casimir à droite, et puis Siwe, Mensah et Senaya. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a voulu garder le système. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, non, c'est clairement une défense à 5. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'en règle générale, quand on joue à domicile, on essaie d'être un peu plus offensif. Je pense que vraiment Auxerre craint cette équipe de Monaco et ça se voit à travers la défense à 5, en effet.
Qui est habituel, hein, Fred, mais là, il y a tellement d'absents derrière. On l'a dit, Diomandé, Akpa, Sierralta.
Ah, il manque du monde du côté de la JOCR. Alors déjà qu'elle a un petit peu de mal à se trouver, cette défense new look, puisque on rappelle que Joubal est parti. Il faut aller lui trouver un remplaçant. Enfin, un remplaçant, même si Christophe Pélissier ne veut pas entendre parler de remplaçant. Attention tout de même à cette contre-attaque, il y aura une faute. Non, c'est récupéré par les Monégasques, même si du côté de Christophe Pélissier, on ne veut pas entendre parler de remplaçant. Mais Sierralta est un peu revenu. Pas pour faire oublier Joubal, mais pour être le nouveau patron de cette équipe auxerroise. Et il est absent ce soir. Donc il va falloir et il faut faire ce soir, en tous les cas, sans un garçon comme Sierralta, le Chilien qui est assez puissant, qui est un peu dans le style de Joubal, même si pour l'instant il n'a pas complètement trouvé ses marques au sein de l'équipe auxerroise.
Le pressing d'Akliouche devant Oppegaard, le ballon dégagé par le latéral norvégien, mais il y a le pressing monégasque. Biret a récupéré à droite de la surface de réparation, le corner obtenu sur ce centre de Mika Biret qui a été bien contré par Siwe, lequel était revenu couvrir, mais le ballon a été récupéré haut hein. Ça part aussi d'une très belle course de Marnès Akliouche qui était allé presser au garde quasiment au niveau du poteau de corner au Serrois, et finalement le dégagement a permis au Monégasque de récupérer, et c'est Akliouche qui va tirer le corner de la droite vers la gauche.
Ouais, le pied gauche d'Akliouche pour amener cette balle dans la surface de réparation de Persin. Le ballon qui s'élève, c'est prolongé, ce sera finalement dégagé tant bien que mal par la défense au Serrois. Voilà qui est fait, loin devant la poitrine. Oh, il a bien joué le coup Casimir, mais il a été quand même surpris et n'a pu contrôler et conserver cette balle. Il y aura une faute. C'est en faveur des Monégasques avec cet accrochage sur Bamba, légèrement déséquilibré, et on a immédiatement signalé le coup franc du côté de l'arbitre de cette rencontre.
Il pleut beaucoup hein, on en a parlé légèrement en avant-match, mais il pleut énormément là.
Oui, comme à
des
Paris.
Cordes.
Ah,
oui.
Ah. Bien fait.
J'ai cru comprendre ça en entendant Maxime, mais voilà, c'est même météo, et donc évidemment c'est un facteur qui va jouer pour les joueurs qui sont sur la pelouse. Toujours 0-0, 8 minutes de jeu, la touche à gauche à venir pour Ouattara et les Monégasques voilà, qui n'ont pas eu encore de grosses occasions.
Et on part tout de suite à Gabriel Montpied. On rappelle que la Ligue 2 ça joue ce soir, Clermont Saint-Etienne. Damien Tardieu, il vient d'avoir un but.
Oui, l'égalisation des Stéphanois après 7 minutes en deuxième mi-temps. Ils étaient pourtant pas très bien rentrés dans cette deuxième mi-temps, les Verts, mais ils profitent là d'un ballon récupéré dans le camp clermontois. Il me semble que c'est Augustine Boisquier qui est venu marquer, Guy Varche qui est pris à contre-pied, cette frappe à l'entrée des 16 mètres, et les Verts qui étaient un peu dans le dur depuis la fin de la première mi-temps. Ils avaient encaissé le premier but, qui reviennent au score à Geoffroy Guichard. 52 minutes, pas Geoffroy Guichard, parce qu'il y a beaucoup de Stéphanois, mais on est à bon pied. C'est que derrière le but clermontois, c'est vraiment que des Stéphanois. Il n'y a que 1h20 de distance entre les deux équipes. En tout cas, un partout entre les deux équipes. Les Verts reviennent au score.
Et on rappelle, Damien, que les deux équipes sont invaincues en ce début de championnat.
Et effectivement, les Clermontois ont fait 3 nuls et une victoire. Les Stéphanois, 2 victoires, 2 nuls. Et les Stéphanois qui avaient eu la possession en première mi-temps, ils avaient largement dominé la première demi-heure, mais sans se créer d'énormes occasions. Ils s'étaient fait piéger par les Clermontois. Et alors que le début de deuxième mi-temps n'était pas terrible, avec notamment une grosse occasion clermontoise d'entrée et une frappe de balle à côté, et bien Saint-Etienne est finalement revenu. 53 minutes et le score est de 1 partout maintenant, ici au Montpied, entre Clermont et Saint-Etienne.
Et vous le savez, vous pouvez nous joindre sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424, et il y a un message pour toi justement, Damien, d'un certain David qui nous dit: salut l'équipe RMC, si vous voulez un bon resto sur Clermont, je vous invite après le match au restaurant Le Chaperon Rouge. Donc voilà Damien, si tu sais pas où dîner après la rencontre, si tu veux te régaler,
merci pour le petit conseil.
Je pense qu'il peut y avoir une très bonne truffade. On part dans le sud-est.
Magnifique. Et effectivement.
Et oui, on part dans le sud-est. Alors à Marseille, il faisait pas beau. Je sais pas quel temps il fait à Toulon, mon cher Flo Germain, mais en tout cas, Toulon-Castres 3-3, deuxième journée de top 14.
Exactement, 3-3 3 partout, une pénalité à nouveau ce coup-ci du Rugby Club Toulonnais signé Marius Daumont, buteur désormais de cette équipe. En plus, Melvin Jaminet est sur le banc des remplaçants. Il répond à Louis Lebrun qui avait marqué la première pénalité. C'est le filleul, on le sait, de Yann Delegue, Louis Lebrun. Et au bout de 14 minutes, score de parité donc entre Toulon et Castres, 3 partout, avec quelques erreurs commises, notamment côté toulonnais dans l'offensive qu'il a par l'intermédiaire de Olivier Cowie. Vont pouvoir récupérer un ballon important, c'était dans l'embut toulonnais, et donc il sauve un essai et surtout il trouve une touche juste derrière. 3 partout entre Toulon et Castres, bientôt le quart d'heure de jeu.
Et au niveau du temps, Flo, fais-nous enrager parce que nous on se noie sous la pluie.
Écoute, ouais, je vais pas trop vous faire enrager parce que tu l'as dit, à Marseille il pleuvait, à Toulon c'était un petit peu menaçant également, mais par contre il fait relativement bon, hein. J'ai à peine une petite veste sur les épaules juste pour protéger la voix en vue d'un Real Marseille au Bernabéu mardi, c'est juste ça,
et d'un Marseille PSG dimanche. Donc effectivement, on a besoin de toi en pleine forme. On retourne à la Baie des Champs, messieurs Fred et Valentin, Monaco qui monopolise le ballon après 11 minutes de jeu.
Et attention à Cliouche, ça vient en profondeur, la petite déviation, elle est sublime, elle est un peu trop courte pour Balogun. Il avait tenté la passe en une touche derrière la jambe d'appui alors qu'il était en pleine course, l'international français, tout ça devant la surface auxerroise. Ça a été récupéré, mais effectivement les monégasques qui monopolisent le ballon. Minamino Biret qu'on voit beaucoup, qui a tenté une frappe contrée tout à l'heure, mais c'est vrai que Fred, là Auxerre est en mode défense depuis le début, toujours 0-0, évidemment la 12e.
Ah, exactement, il a fallu une belle intervention de Sibé qui est venu couper devant le joueur monégasque car il pouvait y avoir danger. On voit que l'équipe auxerroise est vraiment dominée et malmenée. C'est que Casimir, qui normalement est un milieu droit offensif, est quasiment à un poste de latéral droit, c'est-à-dire qu'il est pas loin de sa surface de réparation pour défendre, pour donner un coup de main à ses coéquipiers avec la belle combinaison, peut-être la frappe. Oh, c'était drôlement bien vu de la part de Balogun, et le ballon qui passe juste à côté, ça a été vite et c'est pas cadré, mais ça aurait pu être bien plus dangereux.
Ça va vite, hein, Maxime, devant on voit là, c'est Minamino, talonnade de Biret pour Balogun. On parlait d'entente devant, ça joue très très vite en une touche de balle.
Ça joue très très vite et c'est très très difficile pour les joueurs auxerrois de pouvoir contrer ce genre de tactique entre les deux. Là, c'était très très bien joué de leur part, vraiment.
Pas de but pour l'instant.
Un peu fermé, malheureusement, pour Balogun.
Oui, effectivement, pas de but pour l'instant entre Auxerre et Monaco. 13 minutes de jeu, on est ensemble jusqu'à minuit. Ça se passe évidemment sur RMC. On vit en intégralité le match entre la GIA et la SM. Et juste après, il y aura l'after foot. On reviendra sur Kiki Mbappé qui est en pleine forme. Et on parlera également du match de dingue entre la Juventus Turin et l'Inter Milan. On est ensemble jusqu'à minuit. Ça se passe évidemment sur RMC. A tout de suite.
RMC, l'after live.
Karine Galli. Avec Maxime Chano, notre nouvelle recrue dans la Dream Team RMC. On retourne tout de suite à la Baie des Champs. Fred Joly et Valentin Jamin. Il y a une énorme occasion pour Sinayoko.
17 minutes de jeu, 0-0. Effectivement, Fred, c'était un face-à-face gigantesque manqué, j'ai envie de dire, par l'attaquant auxerrois.
Ah, l'ouverture de Danois était quasi parfaite dans la profondeur, au millimètre près. Il n'était pas hors-jeu, évidemment, hein, Sinayoko. La arrière-garde monégasque était bien alignée. Il s'est présenté face à Cohen. Il a fait le petit passement de jambe. Malheureusement, il a un petit peu trop poussé son ballon, ce qui a permis à un défenseur monégasque de revenir. Il y avait vraiment, vraiment danger. Et la Auxerre par Sinayoko et cette ouverture lumineuse de Danois aurait pu, on va pas dire contre le cours du jeu, mais un petit peu surprendre tout le monde et ouvrir le score.
La transversale, la Cliouche, la tête de Ouattara au deuxième poteau, la bonne couverture. Est-ce qu'il était un peu gourmand, Maxime, selon toi, parce qu'il avait vraiment du temps, hein, pour éliminer Keun ou frapper?
Je pense qu'il aurait dû tirer en une touche. C'est clair et net, il voit pas le retour de Van Dersen. Ce qui est important aussi à mettre en avant, c'est l'appel de Mara qui permet de prendre l'arrière-garde monégasque, c'est-à-dire deux défenseurs centraux à défaut, et ce qui permet de donner beaucoup d'espace à Sinayoko et de se retrouver dans cette position-ci.
Et on a vu monsieur Christophe Pélissier se prendre la tête dans les mains, parce que évidemment quand t'es dans la position de la GIA, début de saison compliqué, voilà, t'en auras peut-être pas 15, et là tu te dis que t'as raté une occasion en or d'ouvrir le score.
Le corner à venir pour Monaco, parce que ça va vite, hein. Évidemment, dès que Monaco accélère, 18e minute, ce sera de la gauche vers la droite pour Marnès Akliouche, le nouvel international français. Et là, il n'a pas réussi à lever son ballon, c'est très très mal tiré, c'est dégagé directement par Ouzou. Il s'en veut d'ailleurs, là, il se replace. Et ballon rendu au Monégasque.
À Clermont, il y a un but. Damien Tardieu.
Oui, le but, c'est Saint-Etienne qui passe devant les Verts, qui font une entame de deuxième mi-temps. Tony Truant, 62e minute. Le centre venu de la droite. Et c'est Stassin qui était rentré à la mi-temps, qui vient couper la trajectoire de près et battre Théo Guivarch. Et voilà, Saint-Etienne qui était mené 1-0 à la mi-temps, qui marque 2 buts en 8 minutes et qui mène désormais au Montpied, qui est provisoire leader de Ligue 2. 2-1 pour les Verts. Lucas Stassin, son premier but de la saison.
Énorme coup pour les Verts, donc comme tu dis, qui pourrait enchaîner.
En cas.
Non, ça va aller.
Non, c'est même pas enchaîner, je veux dire qu'il pourrait engranger une troisième victoire en ce début de saison. Voilà, j'avais pas le bon mot. On retourne à la GIA. Pour l'instant, pas de but. 19 minutes de jeu. Fred et Valentin entre Auxerre et Monaco.
Ouais, c'est sous la pluie, ex qui tombe, on va peut-être finir enrhumé. 0-0 en tous les cas. Et je pense qu'il y a une grande histoire d'amour contre un être entre Salisu et Sinayoko. Ça fait 2-3 fois que les garçons s'accrochent. Voilà, je pense qu'il va y avoir un beau combat dans le match entre ces deux garçons. En tous les cas, pour l'instant, les Monégasques sont en possession du ballon. On décale sur le côté droit. Avec cette balle qui va, on n'arrive pas, on trouve pas de solution, on n'avance pas, on va de gauche à droite du côté de l'AS Monaco, mais on n'arrive pas vraiment à passer les lignes, à passer ces lignes aux Serroises qui sont pour l'instant bien en place et bien concentrées. Et tous les garçons du côté des hommes de Christophe Pélissier font l'effort et ça complique la tâche au Monégasque.
Et le pressing efficace d'ailleurs de Auxerre qui récupère le ballon au milieu de terrain. On a trouvé, c'est Koumara qui va lancer à gauche Namasso, le 1 contre 1 face à Salisu. À gauche de la surface, il a trop poussé. Le joueur prêté par Porto, il a sûrement mal géré surtout sa touche de balle et Salisu a pu sortir le ballon en touche, mais c'est vrai que le pressing était intéressant et la touche a été jouée par Auxerre.
Ouais, les Auxerrois qui sont en possession du ballon petit à petit et au fil des minutes ils sont en train de prendre un petit peu confiance. Ils ont laissé passer l'orage sur le terrain face à cette équipe de Monaco qui avait vraiment démarré très fort. Ils ont su rester solidaires et laisser venir ces Monégasques et là doucement, et ils se sont un petit peu rassurés en se procurant cette belle occasion avec Sinayoko. Doucement, ils sont peut-être en train de prendre confiance et que pourquoi pas, même si Monaco c'est du costaud et que si du côté de la JOCR on est plutôt diminué avec de nombreuses absences, et eh bien il y a peut-être un coup à faire après tout.
Il y en a aussi d'ailleurs à Monaco des absences, on l'a dit, Radecki dans la cage et Golovin qui n'est pas là sur ce match. Et puis on a eu des nouvelles de Paul Pogba, messieurs dames, qui pourrait peut-être être dans le groupe après la prochaine trêve internationale. Il y a Ansu Fati qui est bien plus proche, lui, l'ex-barcelonais, d'un retour sur les terrains. Et puis Idumbo, une recrue à 10 millions d'euros qui a été présenté cette semaine, qui est encore en phase de reprise, bien connu dans le championnat belge et qui devrait venir renforcer rapidement l'AS Monaco. Donc effectivement, on l'a déjà vu ce soir, il y a quasiment deux effectifs et c'est pas terminé pour des Monégasques là en position défensive pour le moment, et les Auxerrois qui s'installent tranquillement dans le camp de leurs adversaires.
Ils gardent les ballons, les Auxerrois, ils font bien tourner avec peut-être cette frappe. Oh, heureusement, du bout du gant, la frappe était belle, elle était signée Mara, la frappe est belle et il a fallu la parade du portier Monégasque. C'était cadré.
C'était magnifique. Une frappe qui partait, je pense, sous la barre de la part de Sekou Mara à l'entrée de la surface de réparation. Et la belle horizontale de Philippe, que le corner a été joué par Casimir rapidement avec Danois derrière, en retrait. Il y a un petit peu d'espace pour Oppegaard qui va se mettre sur son pied gauche. Centré, ça a été touché par Namasso. Ça a été contré par un Monégasque. Effectivement, on réclame rien, mais on dirait presque que c'est de la main d'ici. En tout cas, c'était un duel collé et finalement, Biret est allé presser pour obtenir une touche. Ils vont s'en sortir, les Monégasques, mais ça se rapproche et Auxerre est de plus en plus dangereux, toujours 0-0.
Maxime, on a eu la meilleure version de Keun, parce qu'on le sait qu'il y avait un problème de gardien l'an dernier entre Keun et Majewski. Parfois il nous a fait des très beaux arrêts, parfois il nous a fait des boulettes. Là, il a été impérial.
Il était très bon. Après, là, j'ai envie de mettre en avant Kerrer et Salissa qui doivent être bien plus proches de Mara à sa prise de balle. Là, il le laisse avancer, il le laisse frapper. C'est jamais évident pour un gardien de devoir arrêter un ballon comme celui-ci, surtout avec les qualités de Mara.
Qui dispute d'ailleurs son premier match de la saison, c'est Koumara. Fred l'a dit, prêté par Strasbourg. Il n'avait pas joué jusqu'ici, il était remplaçant comme l'année dernière où il était souvent entré, mais voilà, il est arrivé comme joker. Il va faire du bien à cette équipe de la JOCR. La touche de Ouattara sur la gauche pour Monaco est vite récupérée par les Auxerrois avec Namasso qui a perdu le duel, et on est au milieu maintenant avec Bamba sur sa gauche pour Takumi Minamino au niveau de la ligne médiane, contré par Elisha Owuzu.
Ah, une touche à suivre. C'est vrai que pour l'instant les recrues nous font bonne impression, On avait un petit peu de mal jusqu'à présent présent avec ce que l'on avait à disposition, Aillé, Baird, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Là, le fait d'avoir fait venir un garçon comme Mara ou Namasso semble donner un petit peu plus de dynamisme, mais ça permet à Sinayoko d'avoir des coéquipiers qui sont un petit peu dans son style à lui, hein, des garçons rapides et balles au pied et qui savent trouver l'ouverture quand il faut.
Minamino à gauche pour Ouattara, le centre au niveau de la surface de réparation, excellent retour de Josué Casimir qui est venu le contrer, et Sinayoko à la relance, la transverse à la gauche, il va falloir la toucher pour Thilo Kerrer. C'est très bien joué, la tête en retrait de la part de l'ancien parisien qui donc dispute son premier match cette saison. Il a été relégué dans la hiérarchie avec l'arrivée d'Eric Dyer, l'éclosion de Mawissa, et on va arrêter le jeu messieurs dames puisque Josué Casimir s'assoit. Est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est musculaire, on va le savoir dans quelques instants. En tout cas pour le moment, 24 minutes de jeu et 0-0.
On en profite pour partir en Ligue 2. On rappelle à mon pied, ça joue entre Clermont et Saint-Etienne, et peut-être Damien un nouveau succès pour les Verts qui mènent au score.
Oui, et c'était pas gagné à la mi-temps. Ils étaient menés 1-0, les Verts. Ils mènent désormais 2-1. Ces buts donc de Boisquier et du Belge Lucas Tassin qui est rentré, et l'apport des joueurs sortis du banc, Igor Miladinovic et puis Lucas Tassin, est clair pour des Stéphanois qui ont désormais la maîtrise. Les Clermontois regretteront sans doute de ne pas avoir tenu plus longtemps alors qu'ils étaient en position idéale 1-0 et qu'ils avaient des opportunités, notamment dans le dos des deux latéraux. Côté Clermont, Henri Cévé et Adrien Hunou viennent de rentrer. Attention à ce ballon récupéré par Stassin sans problème pour Théo Guivarch. Pour l'instant, Saint-Etienne prend la tête de la Ligue 2. Les Verts mènent 2-1. Il reste 22 minutes à jouer ici au Montpied.
Direction Mayol, deuxième journée de top 14. Toulon Castres, Florent Germain.
Pour le moment, on préférait l'avant-match, pour être honnête. Les jeux de lumière, le pilou-pilou. Là, c'est un petit 3-3 entre Toulon et Castres, 29e minute. Alors, c'est assez heurté. Ça a d'ailleurs un peu chauffé en deux occasions. Et j'ai peut-être été mauvaise langue parce que là, les Castrais vont nous proposer une accélération de l'ailier, en l'occurrence Adam Vargas, qui est bien stoppé par notamment Baptiste Serin, qui s'en prend à lui derrière parce qu'il estime qu'il tarde à relâcher le ballon. Le ballon sera toulonnais. 3 partout entre le RCT et Castres, et donc bientôt la demi-heure de jeu ici au Stade Mayol.
Et beaucoup de messages, vous le savez, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On vous lit. Bananou qui dit: j'ai que 13 ans mais je vous écoute et j'adore l'émission. Mais tu as bien raison de nous écouter, Bananou. Thierry qui nous dit: c'est génial, je me régale avec vous. Continuez à nous envoyer des messages. Et tout de suite un corner intéressant pour Monaco, et c'est Akliouche qui s'y colle, messieurs.
Ouais, exactement, corner. Alors, j'espère qu'il sera mieux tiré que tout à l'heure. Ça, c'était un petit peu catastrophique. Il était mieux tiré. Et il va pouvoir récupérer, tenter de remettre cette balle dans la surface de réparation. Salijou, ne peut contrôler, est obligé de revenir complètement derrière du côté de l'AS Monaco. Ah, on a perdu 40 mètres.
Ouais, on va essayer de relancer la machine, justement, avec Aladji Bamba qui a de l'espace. On est toujours dans le camp de la JOCR, quasiment au niveau du rond central. Il est touché Ouattara sur la gauche. Maintenant, on va aller légèrement sur la droite avec Thilo Kerrer qui lève la tête, qui met un ballon en profondeur en direction de Mika Biret qui est dos au but. Il ne la touchera pas puisque c'est Mensa qui dégage sur Akliouche. Attention dans les petits espaces, le ballon est toujours dans les pieds de Monaco. Minamino maintenant avec à droite Biret derrière lui pour Vanderson, le centre, une touche de balle au deuxième poteau, la sortie de Depersin qui a été gêné. Mais il était un petit peu juste, il a été gêné par Balogun. Ce sera un coup franc, il est félicité par ses coéquipiers.
Ouais, il a été légèrement bousculé aussitôt. La faute a été sifflée, il est venu vraiment là. Quand il met les deux points, il est en l'air, il a les bras en l'air, il est percuté par le Monégasque. C'est donc logiquement qu'une faute est accordée à la JOCR. On se rend compte qu'en phase défensive, eh bien, cette équipe de la JOCR, elle évolue à 5. Vraiment, il y a un gros travail de Casimir. Il me surprend un petit peu ce garçon, car on n'a pas l'habitude de le voir dans ce rôle-là. Il devient un véritable latéral droit pour finir un coup de main à ses coéquipiers. La frappe au Serroise, ça va être récupéré. Deuxième tentative peut-être. Oh là, il nous a voulu nous faire un petit passement de jambe là, Mara. Mais ça a complètement manqué. Et ça profite au Monégasque.
Mais le contre a été manqué là, puisque Balogun a voulu toucher Mika Biret devant la bonne couverture de Siwe, le jeune défenseur central d'Auxerre qui lui aussi joue pour la première fois avec les pros. On vous l'a dit, hécatombe en défense centrale oblige. Eh bien, Siwe, le joueur de 20 ans qui est titulaire alors qu'il était en plus gêné au genou en début de saison et qui découvre le grand monde. Kevin Danois pour les Auxerrois qui va lancer en profondeur. Casimir, il est excellent ce ballon. Casimir, à droite de la surface, face à Cole, petit filet. petit filet pour Casimir alors que l'angle était assez fermé. Il y a le retour de Salisu qui est en retard puisque Casimir reste au sol, mais en tout cas la passe de Kevin Danois, ça fait deux fois que c'est parfait.
Ah, c'était vraiment 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 bien vu. Oh là là, c'est millimétré, c'est parfait. Casimir qui accélère, il est repris. Alors, ce qu'il y a faute, oh, il en rajoute peut-être un petit peu. En tous les cas, le retour du défenseur est exceptionnel car il fallait aller se jeter dans les pieds de Casimir pour tacler cette balle. Il y avait vraiment danger à l'approche du but monégasque.
Je suis pas sûr qu'il la touche.
Ah non, c'est
Par contre, il simule complètement.
Mais oh, il simule, on est d'accord.
Il n'y a aucun contact entre le Monégasque et l'Auxerrois. Par contre, Maxime, effectivement, ce ballon de Danois, c'était un petit bonbon. Est-ce qu'il pouvait fermer? Parce qu'au final, il ne cadre même pas ses petits filets.
Oui, après, la solution revient très bien. Il ferme l'angle, ça permet au gardien de garder juste le premier poteau. Bon, la finition est mauvaise, mais ça lui suffit de faire un très, très gros travail là, sur son tacle.
Mais deux, ça fait deux fois que Kevin Danois. Ouais, et à chaque fois ça vient du même joueur, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais Kevin Danois, Fred, c'était la révélation de la saison dernière. Il est devenu international espoir et il est incontournable au CERF.
Ah, il est incroyable, c'est un vrai 8, c'est un garçon qui fait beaucoup de travail au niveau de la récupération et qui a un sens du but, et il a vraiment l'œil pour se projeter et projeter ses coéquipiers vers l'avant. Et je pense que Christophe Pélissier lui demande de plus en plus de se mettre dans ce rôle, pas seulement se battre pour la récupération, mais également donner des solutions à ses coéquipiers. Et vraiment, il est en train de surprendre tout le monde et il a gagné sa place de titulaire. Il est titulaire incontesté dans l'entrejeu au Serrois.
Il sait tout faire puisqu'il était avant cette journée co-meilleur récupérateur de notre championnat. Kevin Danois, en attendant, Monaco patine. Je cherchais le mot, mais patine. On voit plus grand chose en attaque. La touche là pour Auxerre, dans le camp au Serrois sur la gauche, récupérée rapidement par Vanderson. Mais alors, Maxime, est-ce que ça peut être les automatismes ou est-ce que c'est que tout le monde est rentré de sélection ou juste Auxerre gêne bien Monaco? Mais on n'a pas le Monaco du début de match. En tout cas,
oui, je pense que les 10 premières minutes, Monaco était bien en place, le rythme était un peu plus élevé. Après, Crély à Auxerre qui fait un bon match, oui, avec la défense à 5 là, qui gêne vraiment beaucoup les Monégasques. Je pense que ça va être un match compliqué pour les Monégasques.
Valentin, on va beaucoup suivre aussi à Cliouche parce qu'on sait qu'il est devenu international français. Alors, il a eu 2 minutes, même pas, lors du premier match face à l'Ukraine. Mais voilà, son statut va changer, il va être encore plus regardé. Donc, il est observé depuis longtemps. Mais là, c'est encore différent. Quand on devient international, forcément, tout change.
On change de dimension, évidemment. C'est vrai que même s'il a quasiment touché aucun ballon, il était entré face à l'Ukraine en Pologne lors du premier match. Évidemment que les regards vont changer face à Marnes Akliouche. Les attentes vont être élevées aussi. On acceptera probablement moins, enfin pas nous, mais même les entourages, le club, des matchs un petit peu médiocres d'Akliouche. Il en fait peu quand même. Il a déjà marqué 2 buts cette saison, mais son statut change, c'est vrai. Et là, on le voit quand même pas mal toucher des ballons sur le côté droit, être actif. On sait qu'il aurait pu partir peut-être cet été, que ça s'est décidé en fin de mercato parce que voilà, ça ne convenait pas forcément ce qu'il avait reçu à Monaco, mais à Cliouche pourrait faire un peu plus, mais on le voit quand même pas mal. Toujours 0-0, la demi-heure de jeu entre Serre et Monaco.
On retourne à Gabriel Montpied, on en est à 74 minutes de jeu. Damien Tardieu.
Oui, 2-1 toujours pour Saint-Etienne qui fait la belle opération. On rappelle que les Verts étaient menés à la mi-temps 1-0. Ils ont tout renversé en début de deuxième mi-temps, mais depuis quelques minutes ils ont un peu perdu, alors peut-être volontairement, le contrôle du ballon qui arborait, qui affichait 66% de possession de balle à la mi-temps. Ça s'est nettement réduit. Clermont a des opportunités, mais Clermont va devoir se découvrir également. Et les Auvergnats, eux, qui sont en train de concéder peut-être leur première défaite de la saison. Il reste un quart d'heure tout pile à jouer au Montpied. Toujours ce score de 2-1 pour l'AS Saint-Etienne.
Deuxième journée de top 14, on est au Stade Mayol avec toi, Flo Germain.
Et 9-3 désormais pour les Castrais. C'est la petite surprise de ce début de rencontre. On voyait peut-être les Toulonnais favoris à domicile. Alors il reste encore beaucoup de temps, 35e minute, 5 minutes donc avant la mi-temps. Mais Toulon, on n'en est qu'à une petite pénalité marquée par Marius Daumont. Et face à ces Toulonnais, il y a l'adresse, la précision, la sérénité du buteur du CO, du Castres Olympique, en l'occurrence Louis Lebrun, qui est sur un 3-3 à 100%, souvent face aux perches. Alors c'est une distance toujours raisonnable, mais avec les petits sifflets de Mayol ou la pression pour Louis Lebrun, il pourrait parfois trembler. Bien non, il est solide et mentalement il fait la différence. 9-3 pour les Castrais ici à Toulon.
Et on vous rappelle, en Ligue 1, 4e journée, Nice a battu Nantes 1-0 avec Boga, unique buteur de la rencontre. On est ensemble avec Maxime Chano, on vous attend évidemment au 32-16 sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On passe une belle soirée sur RMC. On est avec vous jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. Maxime Chano est avec nous et vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Thierry qui nous dit bonsoir l'after, on t'embrasse. Thierry Manuel qui nous dit petit big up pour Dodu. Dodu c'est mon chien, bonne émission et j'espère que Dodu viendra en studio très vite. Et puis on a Freddy qui veut un bon pari pour le match entre Auxerre et Monaco. Bah écoute, on va aller à la BD Champ pour voir un petit peu comment ça se dessine. Fred Joly et Valentin Jamin. Il est compliqué ce match, hein, 35 minutes de jeu parce que Monaco avait bien commencé et puis la GIA s'est rebellée. C'est la GIA qui a eu les deux plus grosses occasions.
Ouais, 0-0, petit conseil, faut pas miser trop gros sur Monaco ce soir, a priori, puisqu'il n'y a pas de domination. Même si là, à gauche, Ouattara est trouvé, à gauche de la surface de réparation, il va déborder. L'excellent retour d'un Josué Casimir qui va changer de poste si ça continue, puisqu'il est tellement bon dans ce couloir droit. Il va concéder le corner, certes, mais il est bien revenu sur Ouattara et ce sera encore pour Akliouche. Mais oui, les deux meilleures occasions, par Sinayoko et par Sekoumara, surtout une énorme frappe sous la barre claquée par Philippe Kuhn. Les deux meilleures situations sont venues pour Auxerre. 36 minutes de jeu, 0-0, corner pour Akliouche.
Allez, un nouveau corner pour Akliouche et amener cette balle dans la surface de réparation. Auxerrois, jusqu'à présent, ça s'est pas vraiment bien passé pour les Monégasques. Une tête qui a été contrée, elle est de l'autre côté, ça va revenir. Peut-être pour un nouveau ballon dans cette surface de réparation. Voilà qui est fait. Ça paraît, très compliqué sur ce centre de Vanderson. Le ballon qui a été touché par une tête monégasque et finalement qui sort des limites du champ de jeu. D'ailleurs, on a vu les statistiques, 60% de duel gagné pour la JOCR contre 40 pour Monaco, ce qui démontre qu'après 10 minutes compliquées pour la JOCR, eh bien, les Bourguignons ont su réagir, laisser passer l'orage et sont en train de prendre confiance dans cette rencontre.
Et c'est d'autant plus à souligner que...
Pourquoi sur ce corner, Minamino ne la remet pas directement pour essayer de trouver une tête? Pourquoi il remet un ballon derrière pour qu'il y ait à nouveau un centre et que finalement ça ne donne rien? Je ne comprends pas en fait.
Il a voulu chercher Vanderson qui avait un petit peu plus peut-être d'angle ou qui était moins pressé, mais c'est vrai qu'il aurait pu accélérer un petit peu le jeu Minamino sur ce corner au second poteau et que surtout il a permis aux Auxerrois de se replacer en faisant cette passe en retrait. De toute façon, ce n'est pas super fluide hein, côté Monaco, mais c'est aussi effectivement, Maxime le disait, il faut souligner ce que fait Auxerre après la semaine compliquée dont a parlé Pélissier. Les absents en sélection, les blessés. Ce soir encore, on apprend avant le match que deux joueurs sont en groupe et pour l'instant c'est une vraie belle prestation. Attention, il est passé sur le côté droit, c'est Ouattara peut-être, le centre au second poteau, non, au premier poteau, c'était Balogun même qui était passé sur le côté droit sur cette balle en profondeur, le centre vers Biret. Soit il a été contré, soit il était très mal ajusté avec l'angle. J'ai plutôt l'impression qu'il était mal ajusté.
Il était surtout mal ajusté parce que c'est
Persin qui a pu le capter tranquillement, mais c'était passé sur le côté. 0-0.
Mi-temps à Toulon.
Et c'est la grande force d'une défense à 5. Vous avez vu, l'arrière gauche a été éliminé. Il restait encore 4 défenseurs présents sur la ligne, ce qui a permis de pouvoir contrer ce centre.
Flo Germain, on vient de t'entendre effectivement à Mayol. Donc c'est la mi-temps entre Toulon et Castres.
Oui, pas une très belle première période, soyons honnêtes, que des buts au pied et des pénalités de Louis Lebrun côté Castres et de Marius Daumont côté Toulon. Et c'est Castres qui est devant à la pause. 9 à 6 pour les Castres.
On te retrouve dans quelques minutes. Bon, écoutez, ce soir, c'est pas la régalade. Hein, je suis désolée, chères auditrices et chers auditeurs. On espère que ça va se décanter. Mais bon, à la Baie des Champs, on est un petit peu déçus également du spectacle proposé. Fred et Valentin, vous êtes au commentaire. Ah, et premier carton jaune de la partie en plus.
Pour Zakaria, ouais.
Pour le capitaine
Zakaria qui est allé faucher Kevin Danois à la récupération. On est dans le camp d'Auxerre, hein. On n'est pas si loin de la surface de réparation et c'est sur un ballon de récupération Danois qui a jailli devant le capitaine suisse et le tacle est sanctionné. C'est un peu dur, Maxime, parce que j'ai l'impression qu'il touche le ballon quand même, Zakaria.
Ouais, c'est un peu dur. Zakaria qui est vraiment présent sur les seconds ballons aussi. Il est vraiment précieux dans ce domaine-ci.
Ce qui est fou, c'est que c'est sous les yeux de l'arbitre et il met le jaune. L'arbitre.
Je pense que c'est parce que il annule un peu une contre-attaque de la part d'Auxerre. C'est surtout sur un acte d'anti-jeu en fait. Il le voit comme ça.
Avec ce ballon dégagé par De Persin, titulaire dans les buts puisque Donovan Léon purge son second match de suspension après avoir été expulsé à Nice. Il a été suspendu à Nantes et il est suspendu ce soir. Il sera présent lors du prochain match la semaine prochaine avec les Auxerrois et Sinayoko qui va pouvoir accélérer. Sinayoko qui peut glisser sur le côté, peut-être la frappe. Oh, maintenant on lui laisse pas trop d'espace à notre ami Namazan qui aurait bien tenté sa chance, mais belle intervention de Monaco et finalement une faute sifflée. Discussion entre l'arbitre de la rencontre et Sinayoko. À Sinayoko, ça a été le feuilleton du mercato. Hein. Il devait partir à Nice. Après, il ne partait plus. Il devait aller à Lens. Finalement, il n'y va pas. Et il a décidé de rester à Auxerre. Finalement, il y a eu de grandes discussions avec Pélissier et tout le président de la JOCR qui l'ont convaincu. Il a décidé de rester. Alors, est-ce qu'il partira au mercato d'hiver en Auxerre? Mais pour l'instant, il est toujours au Serrois.
C'est pas si mal, puisqu'il a mis les deux seuls buts pour l'instant.
Son comportement a été loué parce qu'il n'a pas fait la grève, il est resté très positif. Et
non.
Il faut aussi le dire parce que.
Le centre d'Amin Amino, quel retour défensif exceptionnel de Sioué qui est venu dans les 6 mètres jaillir devant Minamino. Le centre était très très beau aussi du pied gauche. Et c'est Owuzu qui est revenu, c'était à Kliouche, qui était à droite de la surface. Le centre du gauche plongeant second poteau. Et le retour de Wuzu dans une position de défenseur central qui enlève le ballon à Minamino qui était tout seul dans les 6 mètres.
C'est super dangereux parce que tu peux le mettre dans ton camp, dans ton but en plus. Faut vraiment être sûr de soi. C'est ce qu'il a fait parfaitement, hein, le milieu récupérateur de la Géosserre au Wuzu. Et c'est un corner à suivre. Un nouveau corner pour Akliouche. Va-t-il réussir est-ce qu'il va réussir à mettre cette balle correctement dans la surface de réparation? Non, une nouvelle fois, c'est dégagé assez facilement par l'arrière-garde aux Serroises. Allez, il faut dégager du côté de la JOCR, récupéré une nouvelle fois par Akliouche. Akliouche qui se remet sur son pied gauche, qui est parfaitement contré. La récupération est aux Serroises et ça repasse derrière. Et pour répondre à ta question, Karine, c'est vrai que Sinayoko, eh bien voilà, il a eu l'intelligence d'écouter ce que lui proposait Pélissier et ainsi que le président de la JOCR en lui disant écoute, il faut que tu restes, on a besoin de toi, on a besoin de garçons d'expérience. Voilà, c'est parfois, eh bien, il faut savoir écouter, attendre un petit peu. Alors après, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, peut-être qu'ils vont lui donner un bon de sortie au mois de décembre ou pas. Enfin, en tous les cas, il est en fin de contrat à la fin de cette saison, donc dossier à suivre pour Sinayoko, mais pour l'instant il est au Serrois.
On loue en tout cas son comportement. Maxime, un petit mot sur le ballon avant le corner de Akliouche, c'était un vrai bijou pour Minamino.
C'est un super super ballon. Bon, la problématique d'Auxerre, c'est qu'ils perdent les ballons un peu trop rapidement là depuis une dizaine de minutes. Ils étaient mieux rentrés dans leur match là après 15 minutes, et là bon, ils recommencent à rebaisser leur bloc. Bon, malgré les bons efforts de Mara qui essaie de presser un peu les défenseurs monégasques.
Ouais, Monaco est plus haut, messieurs, cette fin de première période.
Ça pousse effectivement, et tous les joueurs d'ailleurs monégasques, ça ne trompe pas, sont dans le camp d'Auxerre, hein. Et le ballon encore récupéré haut sur le côté droit avec Kerrer pour Vanderson. La passe axiale très bonne vers Minamino, entrée de surface de réparation. Le bon retour de Sinayoko et Danois qui va pousser pour Sekoumara.
Allez, Mara. Oh là, il est accroché, on l'a joué, il a l'avantage. Oh là, okay.
Double faute.
Oh là, double faute. Carton jaune. Oh, franchement, il avait le pied en avant, hein. Il aurait pu lui faire très très mal, Ouattara, sur cette faute sur Sinayoko. Il y avait déjà eu une faute juste avant, quelques secondes avant, et puis la faute sur Sinayoko. Il sort le carton, mais bon, ça montre que cette équipe de Monaco, elle est pas vraiment bien dans sa tête en tous les cas.
Et Auxerre qui va jouer les coups à fond sur les contre-attaques, ça se sent.
Ouais. Il y a de la vitesse avec Sekoumara, hein, qui est à la base au milieu de terrain, un double contact et puis ça part directement. Il avait été accroché et on avait laissé l'avantage, et derrière Ouattara, il est venu sécher Sinayoko qui a du mal à se relever. D'ailleurs, la mi-temps de Ouattara, c'est quand même compliqué, hein,
le
latéral gauche, ouais, et c'est pas impossible que Caio Henrique finisse le match. Et à la base, c'est Salissou qui était monté et qui avait ceinturé Sekoumara. Lui va s'en sortir, Mohamed Salissou. En tout cas, ça a rendu fou Christophe Pélissier, le banc auxerrois, et le jeu est toujours arrêté après 43 minutes de jeu, 0-0, et on se restaure, on boit un petit peu. Mais effectivement, tu as raison Maxime, on sent que sur les phases de transition, la défense monégasque est très vite quand même transpercée et mise en difficulté.
Ouais, on sent qu'ils peinent avec la vitesse des attaquants auxerrois, vraiment.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas après, pu y avoir pas... deux cartons jaunes là sur cette occasion, parce qu'il y a quand même deux fautes monégasques,
hein. Ah oui. Puis la première, on voit bien qu'il fait faute car il sent qu'il y a une contre-attaque aux Serroises. J'aime pas quand on dit une faute intelligente, mais en tous les cas, il fait faute pour éviter que les Auxerrois développent cette contre-attaque. Il y a la deuxième sur Sinayoko. Et pour le coup, il y a vraiment un pied, hein, sur la cheville de Sinayoko. Il aurait pu lui faire très très mal.
Des sifflets de la Baie des Champs pour probablement contester soit le fait que Salissou n'ait pas pris de jaune pour la première faute, soit puisqu'on espérait une sanction plus lourde contre Ouattara. En tout cas, le coup franc pour la JOCR, on n'est pas très loin de la ligne médiane dans le camp monégasque. On va mettre le ballon dans la surface en direction de Sekoumara qui va la dévier de la tête directement sur Philippe Kuhn. C'est Senaya qui avait mis ce long ballon et Philippe Kuhn va capter cette balle à 1 minute et 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Pas de but et plus de grosses occasions pour Monaco depuis bien longtemps. La relance à gauche avec Ouattara, la balle en profondeur vers Balogun, la bonne couverture de Marvin Senaya.
Ouais, il va falloir qu'il se, voilà, il s'est vraiment déchiré un Senaya sur ce coup-là pour empêcher que le ballon sorte en corner. Il a réussi à la remettre en touche. C'est un moindre mal pour les Auxerrois. Il se touche sur le côté gauche avec Ouattara pour la jouer. Ça va revenir dans les pieds de Ouattara. On combine, on cherche à combiner finalement. Ouais. C'est plutôt manqué. Hein.
C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas très fluide ce que propose l'AS Monaco en cette fin de première période. On peut garder les 10 premières minutes et ensuite plus grand chose. Pour l'AS Monaco, sachant qu'à 18h, le coach avait dit qu'il n'était pas satisfait du contenu des deux derniers matchs, qui avait été une victoire face à Strasbourg 3-2, mais dans le temps additionnel, alors qu'il menait 2-0 les Monégasques et la défaite à Lille. Eh bien, je ne pense pas qu'il sera plus satisfait après ses 45 premières minutes. Il en reste 30 des secondes et le dégagement de Théo de Persin.
Ouais, il y aura sans doute un peu de temps additionnel. En tous les cas, on attend le panneau du quatrième arbitre avec beaucoup d'impatience, avec la tentative de combinaison entre les deux Auxerrois. Finalement, c'est récupéré par Monaco et s'est glissé complètement derrière vers Kohn, qui peut relancer le portier monégasque vers son défenseur central juste devant lui, Salissu, qui a récupéré cette balle, qui décale sur le côté droit. On est parti sur le côté droit là-bas du côté de la Gioser. Toute la défense, tout le bloc auxerrois reprend possession de sa surface, de sa partie de camp, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel.
Et la touche à gauche à venir pour Ouattara, ça avait combiné dans l'axe, notamment Minamino trouvé par Akliouche, et la balle en profondeur vers Balogun a été sortie. Ça a été joué rapidement. Akliouche très libre, hein, qui était à droite il y a quelques instants, position axiale. Maintenant, attention, il a raté le contrôle. Zakaria, il va s'en sortir. On va écarter à droite avec Vanderson. La passe en profondeur vers Akliouche dans la surface, à l'entrée de la surface. Il a voulu faire une petite remise, c'est récupéré et on lance Sinayoko.
Ah, Sinayoko, dommage, il n'a pas pu se mettre vraiment en marche et dans le sens de la marche, mais il a pu glisser cette balle sur le côté gauche. C'est récupéré à gauche, toujours avec Namasa qui revient derrière. Obuzu avec Danois, cherche une solution. Ça, c'est bien joué. Allez, Sinayoko. Peut-être, il y a du monde à Sinayoko. Dès qu'il a le ballon, ils sont deux monégasques sur lui pour éviter qu'il déclenche une frappe. Ils ont soudain vu le but qu'il a marqué contre Lorient, qui était assez exceptionnel. Là, il n'a pas eu le temps d'armer du tout sa frappe, l'attaquant auxerrois.
Et le ballon remonté par les joueurs d'Adi Hutter pour peut-être terminer cette première période. Il va rester un petit peu plus d'une minute dans le temps additionnel. Etilo Kerrer dans le rond central quasiment au niveau de la ligne médiane pour rentrer dans le camp auxerrois. Il va la transmettre sur sa gauche à Salissou qui lui entre dans le camp adverse. La transversale à droite de la surface vers Biret, coupé par Gideon Mensah, deuxième ballon Vanderson à droite de la surface de réparation, le Brésilien en retrait vers Akliouche, le 1-2, Vanderson encore pour aller provoquer, pour retrouver Akliouche.
On fait tourner du côté de l'AS Monaco. 30 secondes à jouer sur les 2 minutes de temps additionnel. Ça, pour faire tourner, on fait tourner, pour mettre le ballon en surface de réparation, c'est un petit peu plus compliqué pour l'AS Monaco. Oh, c'est dégagé tant bien que mal par la défense auxerrois. Ça va revenir et le but.
C'est Minamino qui vient conclure cette action confuse, puisque effectivement c'est revenu dans ses pieds. Ça part du centre à droite de Vanderson, mal dégagé. Petite incompréhension, je pense, dans la défense auxerrois. Ça rebondit, ça arrive dans les 6 mètres. Et qui suit ? C'est Takumi Minamino. Il avait marqué le but de la victoire à domicile face à Strasbourg. Et bien le voilà buteur de nouveau pour ouvrir le score. Et là, vraiment au meilleur des moments, juste avant la pause, pour l'AJ Auxerre. Pas payé, hein, Maxime, l'AJ Auxerre, puisque ce but est un peu brouillon et surtout il fait très mal. 1-0 pour Monaco.
Pas payé, ça part du dégagement de Siwe qui doit prendre pied gauche sur cette action, si et non pied droit, et puis derrière ils sont pas au deuxième ballon, et voilà, ça se termine sur ce but ci. C'est dommage.
Ouais, mauvais dégagement, c'est roi plein axe.
Des détails et ça fait mal et les têtes sont basses d'ailleurs pour les Auxerrois qui vont donc bien rentrer au vestiaire, mener 1-0 sur ce but de Takumi Minamino qui passe comme meilleur buteur de l'AS Monaco. C'est son deuxième. Akliouche en a marqué deux également.
Et on va sans doute faire l'engagement et après envoyer les deux équipes au vestiaire. Voilà, on regarde sa montre du côté de l'arbitre de cette rencontre, monsieur Dissangre, qui ne siffle toujours pas. Voilà, c'est fait, il renvoie les deux équipes au vestiaire et l'AS Monaco a pris l'avantage, a fait la différence avec ce but, vous l'avez vécu il y a quelques instants, signé Minamino du côté de l'AS Monaco.
Merci beaucoup Fred et Valentin, allez vous réchauffer parce qu'on voit effectivement qu'il pleut énormément à la Baie des Champs. On se retrouve dans quelques minutes. Maxime, une petite analyse sur cette première période. C'est vrai que c'est l'AGIA qui avait eu les plus grosses occasions et Monaco favori de cette rencontre qui finalement ouvre le score dans les ultimes secondes de la première mi-temps.
Oui, Monaco qui avait vraiment bien bien débuté le match sur les 10-15 premières minutes. Ils ont mis beaucoup de pression. L'AG Auxerre a eu l'intelligence de laisser passer l'orage. Et derrière, ils ont été mieux pendant une trentaine de minutes. Ils ont exploité au maximum les contre-attaques. Et sur une erreur, la défensive, une minute avant la mi-temps, ce qui est le pire moment pour encaisser un but, Monaco mène 1-0. C'est vraiment dommage pour Auxerre et c'est vraiment mal payé.
Et oui, on verra si la GIA peut se relever en seconde période ou si Monaco va continuer d'engranger des points. On rappelle que Monaco, pour l'instant, c'est 2 victoires en l'espace de 3 journées. Il y a eu un succès contre Le Havre et un succès contre Strasbourg. Donc 2 victoires à domicile. On retourne tout de suite à Gabriel Montpied, Clermont-Saint-Etienne. Les dernières secondes de la rencontre avec toi, Damien Tardieu, et Saint-Etienne qui est en lice pour un troisième succès.
Exactement, les Verts qui mènent toujours 2-1, il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel, 2-30 déjà à jouer, et les Verts qui mènent plutôt bien leur marque dans cette fin de partie. Ils ont certes laissé la possession du ballon au Clermontois, mais ils sont pas vraiment en danger. Ils ont même eu là une opportunité il y a quelques secondes de cela avec la tentative de Miladinovic, le ballon qui est passé à côté des Stéphanois qui techniquement sont supérieurs à des Clermontois qui auront été valeureux, qui auront sans doute laissé passer leur chance en tenant pas un petit peu plus cet avantage. Attention à l'attaque côté droit là des Stéphanois avec le centre qui va passer devant les buts de Théo Guivard. Il y aura une dernière relance sans doute pour les Clermontois. 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Saint-Etienne pour l'instant est leader de Ligue 2, 2-1 pour la Saint-Etienne.
Et oui, on reste avec toi, on en profite hein, forcément de ces dernières minutes qu'on a vécu hier, notamment à la défaite de Pau contre le Red Star. Donc Saint-Etienne qui pourrait confirmer cette bonne entame de saison. Quand on est promu, c'est jamais facile de se remettre la tête à l'endroit et de se remettre dans ce championnat de Ligue 2, mais en tout cas Saint-Etienne est en train de réussir ce début de championnat.
Effectivement, avec peut-être une troisième victoire. Ils avaient déjà gagné à Boulogne 1-0, ils avaient fait match nul à Laval également pour l'entame du championnat. Et sans être flamboyants, les Verts, ils ont des lacunes notamment dans le remplacement défensif, mais ils ont une telle qualité notamment devant, quand on peut aligner notamment Cardona, Boisquier, qu'on peut faire rentrer Stassin, forcément face à des Clermontois qui eux ont un banc qui est pour beaucoup constitué de joueurs qui évoluent en réserve, qui est descendu de N3 en R1 à la fin de la saison dernière. Ça fait la différence, même si les Clermontois ont livré une belle partie. Il y a des crampes également. Ça a été un bon match de Ligue 2 ce soir au Montpied. J'ai dit Geoffroy Guichard tout à l'heure. Et là, il y a les supporters de Saint-Etienne derrière le but de Théo Guivard qui chantent on est chez nous, parce qu'ils sont plusieurs milliers à être venus. Le court déplacement, 1h30 d'autoroute. On est de Saint-Etienne à Clermont. C'est le plus court déplacement de la saison, évidemment, en Ligue 2 pour les Verts. Et qui, pour l'instant, mène 2-1. Le jeu est arrêté parce qu'il y a des crampes côté stéphanois. Oui. C'est le latéral droit Joao Ferreira qui, après une première mi-temps compliquée d'ailleurs, s'est bien repris en deuxième mi-temps. Saint-Etienne qui tient bon sans l'avantage de 2-1. On va repartir sur une balle à terre pour les Clermontois.
Et je rappelle les autres résultats de la journée hein, Damien. Grenoble a battu Dunkerque 1-0, et puis il y a eu un match nul un but partout entre Annecy et Reims. Et donc Saint-Etienne qui réaliserait le gros coup de cette cinquième journée en allant gagner sur la pelouse de Montpied. On est dans les ultimes secondes de la rencontre. Saint-Etienne qui comptait pour l'instant 2 victoires et 2 nuls, donc on se dirige vers un troisième succès de nul pour les hommes de Saint-Etienne.
On est dans le temps additionnel du temps additionnel, mais il y a eu cet arrêt de jeu pour des crampes, et là c'est Bernauer qui reste au sol pour les Verts. Il y aura une dernière opportunité sans doute pour Clermont avec un coup franc à une trentaine de mètres des buts de Gauthier Larsonneur, qui aura fait un arrêt décisif en début de match. Larsonneur, magnifique parade sur une tentative du buteur clermontois d'ailleurs, Axel Camblan. Et il y aura donc un dernier coup franc pour les Clermontois. Tout le monde est monté, Coffrier notamment, le défenseur central. Il y a également Loïc Soka qui est rentré, qui a de la taille, du gabarit côté clermontois, qui est dans les 16 mètres. C'est Henri Cévé, dont on connaît évidemment la patte droite sur coup de pied arrêté, très très bon joueur évidemment sur coup de pied arrêté, qui va frapper ce coup franc. Il suffit que je dise ça, c'est beaucoup trop long, ça sera pour Larsonneur. Et en plus ouais,
c'est toujours comme ça,
ouais, c'est exactement comme ça, mais là il a complètement raté ce coup de pied qui était sans doute la dernière occasion pour les Clermontois. Monsieur l'arbitre a regardé sa montre, Ahmed Taleb qui était l'arbitre de cette partie, et Gauthier Larsonneur qui va prendre son temps pour peut-être permettre aux Stéphanois d'engranger 3 points précieux ici à Saint-Etienne. On le sait, c'est pas des, ici à Clermont décidément, c'est pas des matchs faciles pour les Verts, qui se sont fait peur, qui auraient pu même se faire punir davantage en première mi-temps, et qui auront fait un début de deuxième mi-temps parfait pour venir empocher les 3 points. Victoire de Saint-Etienne ici à Clermont, c'est terminé, 2-1. Clermont avait ouvert le score, Camblan 43e, et puis les Verts se sont réveillés en début de deuxième mi-temps. Boisquier, puis Stassin 52e, 61e, pour offrir un précieux succès. Saint-Etienne est leader de Ligue 2 ce soir, victoire 2-1 ici à Clermont.
Merci beaucoup Damien, bonne soirée. Puis si tu as mangé une bonne truffade, pense à moi, tu es un homme chanceux.
Je t'enverrai ça, je ne sais pas dans quel état ça va arriver par contre.
Le dernier match de cette journée de Ligue 2, ça sera entre Guingamp et Montpellier lundi, deux anciens pensionnaires de Ligue 1. C'est reparti à Mayol, nous sommes à Toulon avec toi Flo Germain, et c'est toujours Castres qui mène pour cette deuxième journée de Top 14.
Oui, ça agace Pierre Mignoni, le directeur du rugby et manager entraîneur du RCT. 9-6 pour les Castrais, que des pénalités dans cette rencontre de Louis Lebrun côté Castres Olympique et côté RCT évidemment. Il bute désormais, mais c'était pas forcément le cas la saison passée, de Marius Daumont. On voit Toulon quand même déterminé à aller investir les 40 ou 22 derniers mètres castrés. Ils ont une mêlée d'ailleurs, introduction à Baptiste Serin, mais c'est vrai que c'est une prestation assez décevante sur la première période de la part des Toulonnais, qui ont eu énormément de difficultés à envoyer du jeu, comme on dit, et on a vu par très peu d'occasions à l'œuvre les trois quarts, Mathis Ferté, Olivier Cowy, Gaël Dréan, pourtant avec sa vitesse qui est censée beaucoup apporter, il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer. Peut-être ont-ils laissé tout cela pour la seconde période, on verra. En tout cas, c'est Castres qui est devant, Karine, tu l'as dit, 9-6 pour le Castres Olympique, 43 minutes ici à Mayol.